Cicade a été lancé en 1993, donc le rapprochement, si vous voulez, est déjà relativement ancien, mais je dirais il s'est effectivement intensifié depuis quelques années, et notamment d'ailleurs depuis la visite de Shinzo Abe, donc le Premier ministre japonais, qui a eu lieu début janvier 2014 dans trois pays africains, pour effectivement resserrer les liens, notamment les liens économiques, mais également les liens diplomatiques et politiques entre le Japon et ce continent.
Alors justement, pourquoi ce continent est-il intéressant pour Tokyo ?
Pour des raisons économiques, puisque le Japon est un important importateur de matières premières. À peu près une bonne partie des matières premières japonaises sont importées, notamment de l'Afrique. Par exemple, 87% du platine qui est utilisé dans l'industrie automobile ou 67% du manganèse vient d'Afrique. Également, depuis l'accident nucléaire de Fukushima en 2011, évidemment, les besoins énergétiques du Japon se sont fortement accrus puisque le Japon a dû fermer ses centrales nucléaires. Et donc à ce moment-là, il a dû effectivement se tourner également vers l'Afrique, qui est un pays producteur notamment de pétrole. Par ailleurs, l'Afrique connaît un développement économique important. Enfin, la situation économique quand même s'améliore relativement. Et donc l'Afrique peut être un continent aussi pour l'exportation des produits manufacturés japonais.
De quelle manière le Japon investit-il en Afrique ?
Le Japon a implanté des établissements automobiles, par exemple Honda au Nigeria ou Toyota en Afrique du Sud. Le Japon, je dirais, effectivement, exporte un certain nombre de produits manufacturés et implante un certain nombre d'entreprises. Ce nombre, d'ailleurs, a augmenté. Par exemple, entre 2008 et 2013, il est passé de 227 entreprises japonaises à 333. Donc, il y a une implantation dans à peu près 24 pays africains. Donc, ce sont également, évidemment, des produits de grande consommation. Mais là, évidemment, le Japon peut entrer en concurrence avec les produits chinois ou les produits sud-coréens ou voire indiens.
Au niveau militaire, le Japon est-il présent dans le continent ?
Oui, le Japon est effectivement présent dans le continent. Alors, de différentes façons. Au travers de missions onusiennes, par exemple, le Japon a déployé des membres des forces d'autodéfense, donc c'est le nom en fait de l'armée japonaise, hein, force d'autodéfense, au Soudan, au Sud-Soudan, pour stabiliser la situation, mais également pour lutter contre la piraterie maritime internationale, notamment au large de la Somalie. Par exemple, le Japon a notamment implanté une base militaire à Djibouti, dans l'état de Djibouti, depuis juillet 2011, où il y a à peu près 600 membres des forces d'autodéfense, et il a pu également déployer des navires, des frégates, ou plutôt des destroyers japonais, pour patrouiller dans cette zone et effectivement lutter contre la piraterie internationale et faciliter la protection du commerce international, des échanges internationaux, puisque, comme je vous disais, effectivement, les relations économiques entre le Japon et l'Afrique se développent de façon croissante. Bon, les échanges bilatéraux font à peu près 25 milliards de dollars. Il faut effectivement protéger, notamment de la menace de la piraterie, les moyens de transport maritimes internationaux. Et c'est donc l'objet, effectivement, de cette base militaire japonaise à Djibouti.
Alors, la Chine est l'autre pays asiatique qui investit aussi en Afrique. Est-ce que les deux pays, le Japon et la Chine, jouent sur le même tableau sur le continent ou est-ce qu'il y a des différences entre leurs politiques ?
En termes de présence, ils ne jouent pas exactement sur le même tableau. C'est-à-dire qu'en termes d'importance, je citais le chiffre du commerce bilatéral, entre le Japon et l'Afrique, il est à peu près 25 milliards de dollars. Pour la Chine, c'est à peu près 5 fois plus, c'est 130 milliards de dollars. Pour ce qui est de la présence du nombre de ressortissants chinois en Afrique, il y avait à peu près en 2013 820 000 ressortissants chinois. On estime peut-être maintenant qu'ils sont à 1 million. Les Japonais sont à peu près 10 fois moins, donc c'était à peu près 8 000 Japonais en 2013. Et sur le plan diplomatique, il y avait 49 représentations diplomatiques chinoises en Afrique contre seulement 32. En termes d'investissement économique et diplomatique, comme vous le voyez, il y a des différences effectivement assez sensibles, mais je dirais que le Japon tend effectivement à vouloir accroître sa présence sur le plan économique en essayant de développer les échanges pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt, sur le plan diplomatique et militaire également pour des raisons de sécurité, de lutte contre le terrorisme, également avec une volonté, par exemple, de coopération avec la France. Mais il est clair que jusqu'à présent, je dirais, le Japon avait surtout axé effectivement sa politique sur une sorte de diplomatie économique, alors que la Chine avait donc, comme je disais, d'abord une présence beaucoup plus importante et développé réellement des relations d'État à État, cherchant effectivement à s'implanter, à avoir un appui politique plus important. Donc il y avait une sorte de différence d'approche entre la Chine et le Japon. Les deux pays se rejoignent dans le sens que malgré le retard japonais par rapport à la Chine, notamment en matière économique, par exemple sur le plan diplomatique, bon, le Japon veut s'appuyer sur l'Afrique, par exemple, pour affirmer son rôle au Conseil de sécurité des Nations Unies, donc son rôle au sein des Nations Unies. Et c'est ainsi que le Shinzo Abe, donc le Premier ministre japonais, a réussi à rallier donc le soutien de l'Afrique donc au Japon pour qu'il obtienne un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU en 2016. Et donc, en fait, il cherche une étroite coopération avec les pays d'Afrique donc pour une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU et pour que le Japon puisse jouer un rôle plus important. S'il y a effectivement une différence d'approche, le Japon tend quand même aussi à unifier sa volonté économique avec aussi une volonté de diplomatie plus politique et sécuritaire. Par rapport à la Chine, une des différences d'approche japonaise, c'est que je pense que les Japonais ont un souci peut-être plus proche de l'humain, c'est-à-dire de développer en fait par exemple la formation des Africains. Dans le cadre par exemple de la 5e TICAD en juin 2013. Donc Shinzo Abe qui avait promis à l'époque pour l'Afrique à peu près 24 milliards d'euros, donc soit 3200 milliards de yens, donc a promis cet argent effectivement pour susciter le développement économique, stimuler le développement économique, les infrastructures, mais également former des Africains. C'est ainsi que par exemple 1000 bourses devaient être accordées à des étudiants africains pour aller étudier au Japon dans les 5 années à venir. Donc je dirais que le Japon a aussi un souci de l'humain, de la qualité de la formation et pas uniquement, je dirais, de l'économie pour l'économie seulement.
Vous me parliez du Premier ministre du Japon. Sous son impulsion, un article de la Constitution pacifiste du pays a été réinterprété en 2014 et ce pour permettre à l'armée de participer à des opérations extérieures. Où en est-on aujourd'hui ? Est-ce qu'on est toujours dans cette dynamique ?
En fait, effectivement, une nouvelle législation a été adoptée. La Constitution n'a pas encore été modifiée, même si Shinzo Abe manifeste ce désir. Donc c'est vrai qu'on est effectivement dans une dynamique de changement. Est-ce que Shinzo Abe, d'ailleurs, qui a dit tout récemment qu'il souhaitait effectivement amender l'article 9 de la Constitution, amender la Constitution japonaise, est-ce qu'il va parvenir à cette possibilité ? Je dirais que c'est quand même pas évident, dans la mesure, bon, comme vous le savez, les Japonais sont quand même très hostiles à toute sortie du pacifisme constitutionnel, c'est-à-dire effectivement un rôle trop actif des forces armées japonaises à l'étranger. Et d'ailleurs, les conditions d'emploi des forces armées japonaises à l'étranger sont très restrictives dans l'évolution de la législation japonaise. Donc il ne s'agit pas effectivement d'une sortie, je dirais, du pacifisme, même s'il y a effectivement une volonté du Shinzo Abe d'aller dans ce sens. Donc il y a effectivement une dynamique du changement. Parviendra-t-on à un changement carrément de l'article 9 de la Constitution japonaise? Ça paraît quand même difficile. Hein. Peu de gens s'y attendent, et en tout cas il y aura de très très fortes oppositions au sein de la population japonaise, au sein de la gauche japonaise, au sein des constitutionnalistes japonais. Voilà, ça paraît quand même assez compliqué.